Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Vivante Église pour un numéro qui prolonge notre série dédiée au Père de l'Église, ses personnalités et ses auteurs qui ont eu une influence cruciale dans l'histoire du christianisme et qui restent des références essentielles pour l'Église romaine. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à Clément de Rome. Et l'invité de cette émission est le père Édouard d'Ivry, frère dominicain et docteur en théologie, le référent de cette série depuis que nous l'avons lancée il y a plus d'un an. Bienvenue aussi, frère Édouard, et merci d'être fidèle au rendez-vous de Vivante Église.
Bonjour à tous.
Est-ce que vous pouvez rappeler d'abord, parce que ça va être important pour l'émission que nous allons faire aujourd'hui, les critères que doit remplir une figure de l'histoire du christianisme pour être désignée Père de l'Église? Ça nous permettra de savoir pourquoi Clément de Rome est considéré comme l'un d'entre eux.
Alors, Père de l'Église, c'est celui qui a engendré en quelque sorte l'histoire de l'Église par sa pensée, par son agir. Et on peut dire que ce sont les générations qui suivent les apôtres, puisque les Pères de l'Église débutent juste après la mort du dernier apôtre et s'achèvent vers le 8e siècle en Orient, un peu plus tôt en Occident, à cause des persécutions barbares.
Alors justement, vous disiez ce sont ceux qui vont arriver lors des décennies, des siècles après la mort du Christ. Et il se trouve que Clément de Rome, auquel nous nous intéressons aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle les pères apostoliques. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, on les appelle apostoliques parce qu'ils auraient connu les apôtres eux-mêmes. Ils auraient été en quelque sorte choisis par les apôtres dans ce que l'on appelle la succession apostolique pour les évêques. Et c'est le cas, évidemment, de Clément de Rome, à propos duquel eh bien, nous avons les témoignages d'Irénée de Lyon à la fin donc, du IIIe siècle, et puis Hégésippe, qui est aussi un auteur classique, ainsi que Zèbre de Césarée. Bref, il y a une convergence sur cette période qui concerne Clément de Rome, à ne pas confondre avec Clément d'Alexandrie, que nous verrons lors d'une autre émission, certainement, qui est à l'autre extrémité de l'Empire romain, du côté du lieu même de la naissance en Égypte des pères égyptiens. Là, ici, nous sommes en Occident, donc à Rome, la capitale de l'Empire à l'époque, et qui est en même temps le lieu du martyre de Pierre et Paul. Donc, ça n'est pas rien. C'est un lieu qui s'impose par sa dignité à cause de ces deux premiers martyrs considérés comme les colonnes de l'Église. Et saint Irénée écrit la 12e année de ce règne en parlant de l'empereur de l'époque. Donc on est aux alentours, vous voyez, de Vespasien, Titus, Domitien, tous ces empereurs qui sont contemporains. Anaclet, ayant été évêque de l'Église des Romains pendant 12 ans, est remplacé par Clément, que l'apôtre, dans sa lettre aux Philippiens, déclare avoir été son collaborateur en disant « Avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie ». Et il cite ainsi l'épître aux Philippiens. Bon, on n'est pas obligé de suivre textuellement ce que dit saint Irénée, qui s'exprime quand même à la fin du IIIe siècle, donc c'est un peu tardif, mais il y a quand même de bonnes chances pour que ce Clément soit un des compagnons donc de cette époque de Paul, où celui-ci rayonnait dans l'ensemble du bassin méditerranéen pour annoncer la bonne nouvelle.
Alors, père apostolique Clément de Rome, donc, qui serait né vers 18, donc il serait non seulement contemporain des apôtres, mais il serait même contemporain du Christ.
Exactement. Exactement. Là, bien sûr, on peut faire du midrash, si j'oserais dire, inventer des beaux scénarios, des beaux films pour essayer de montrer Clément se promenant déjà en Judée, et quand Jésus fait venir près de lui un petit enfant qui montre comme exemple de celui qui reçoit le royaume de Dieu avec simplicité de cœur, certains ont pu prétendre qu'il s'agissait déjà du petit Clément. Donc c'est mignon comme tout, mais évidemment, il ne faut pas prendre cela à la lettre. Il s'agit plus de la manière pour présenter les choses, de la rhétorique, de l'époque. Et c'est vrai que c'est joli à voir, et dans un film de Zeffirelli, ça passerait très bien.
Oui, parce que Clément serait, c'est important de le préciser, un chrétien, ce qu'on appelle un chrétien de la deuxième ou de la troisième génération, mais qui serait peut-être de culture grecque, et ça a son importance.
Oui, c'est vrai que parmi les apôtres, on a déjà les tout premiers disciples de Paul, qui sont comme Luc de langue grecque, ou Marc, le disciple de Pierre, qui sont entièrement de langue grecque. Et probablement, ils ne maîtrisent pas nécessairement beaucoup l'hébreu. Ils sont déjà au-delà de le noyau dur, ceux qui ont entendu les paroles du Christ en araméen ou en hébreu, et donc qui sont déjà dans cette vague d'évangélisation, hein, qui est un mot grec, qui veut dire l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc ils sont déjà dans cette orbite d'annoncer partout ce royaume de Dieu. Et Luc, Marc et ses premiers donc pères apostoliques sont évidemment de langue grecque.
Clément de Rome, quel est son parcours de chrétien et d'homme d'église? De quels éléments biographiques on dispose avec une certaine certitude tout de même?
Alors, je vous ai lu le passage assez caractéristique, si vous voulez, dans Saint-Irénée, ce qui concerne donc notre saint, je veux dire dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, mais pareil, chez Saint-Irénée, vous avez donc une mention. Après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres, donc Pierre et Paul, remirent à l'un la charge de l'épiscopat, et c'est de ce l'un que Paul fait mention dans les Actes à Timothée. Anaclet lui succède. Après lui, en troisième lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat échoit à Clément. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux, dit saint Irénée. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leur tradition était encore devant les yeux. Il n'était d'ailleurs pas le seul, car il restait encore à cette époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Sous ce Clément donc, un grave dissentiment se produisit, et etc. Il continue donc le récit qui va nous conduire à expliquer la motivation de cette lettre, la seule lettre que nous avons gardée de saint Clément à l'Église à Corinthe, donc celle qu'avait évangélisée en premier lieu saint Paul.
On va venir évidemment à cette lettre de Clément aux Corinthiens, appelée aussi première épître de Clément, mais il aurait été donc un des premiers évêques de Rome, et il est considéré par l'Église comme le quatrième pape, autrement dit le troisième successeur de Pierre.
Troisième successeur de Pierre, nous le disons encore dans le canon romain, hein, puisque nous évoquons les martyrs dans le canon romain, et nous disons l'un, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, etc. Là, on n'est plus dans les papes, mais les tout premiers sont des papes, l'un, Clément et Sixte. Tous ces saints ont marqué dans leur creuset l'histoire de l'Église par le sang versé à l'imitation de Jésus crucifié l'an 30 sous Ponce Pilate.
Son règne, si on peut dire, plutôt la période où il va être pape, ce serait vraiment à la toute fin de sa vie, entre 92 et 98.
Oui,
on est à la fin du premier siècle.
Les dates, si vous voulez, sont assez variables chez les historiens. Certains diront un peu plus tôt, débuteront en 88, finiront son mandat vers l'an 100, puisque les successeurs de Clément, nous n'avons pas les dates. Donc, Évariste, Alexandre, Sixte, que j'évoquais à l'instant, Télesphore, on n'a pas les dates. Donc, du coup, il y a une certaine variation possible autour des hypothèses qui sont émises à propos de la durée des mandats pontificaux. Ce que l'on peut dire, c'est que, grosso modo, parmi les 20-25 premiers papes, tous sont morts martyrs, donc c'est très émouvant de penser ça. Aucune religion ne donne une telle effusion de sang et une telle certitude de gens qui sont allés jusqu'au bout, puisque donner sa vie pour la vérité, il faut vraiment en être totalement persuadé, et cela sur plusieurs générations, puisque il y a eu d'abord la persécution juive qui a quand même duré 130 ans à peu près, puis 300 ans et plus pour la persécution païenne, et tout du long, cette fidélité absolument remarquable de tous ces témoins de la foi.
Ces périodes de persécution seront l'objet de la seconde partie de cette émission. Pour revenir à Clément de Rome, qu'est-ce que l'on sait de son action, que ce soit en tant qu'évêque de Rome, puis en tant que pape?
Alors, son action, donc, ça a été le fait qu'il a été d'abord sous l'effet de la persécution de Domitien, qui avait lancé, comme certains autres empereurs, des actions contre les chrétiens. Les chrétiens voulaient bénéficier, dans le fond, du même statut que les juifs, mais on ne voulait pas leur accorder parce qu'ils n'étaient pas d'origine juive. Et donc, les empereurs ont essayé de persécuter. Et c'est ce qu'a subi, donc, très certainement, les chrétiens de Rome. Et après cette vague de persécution, eh bien, aussitôt, Clément a essayé, après Domitien, de relever la tête et de s'occuper des questions qui étaient en suspens, qui ne pouvaient probablement pas beaucoup agir sous l'effet de la persécution. Il fallait se cacher dans les catacombes, il fallait essayer de survivre en premier lieu. Et donc, du coup, il s'est occupé de la problématique de Corinthe, qui certainement était connue à Rome par des émissaires qui avaient dû être envoyés, en disant qu'il s'était passé quelque chose d'un peu grave à Corinthe. Et d'ailleurs, notre auteur, Clément, s'en exprime au début de sa lettre en disant « À cause des malheurs et des calamités qui nous sont survenus subitement coup sur coup, et donc très probablement c'est la persécution de Domitien, c'est bien tardivement, à notre gré, que nous nous tournons vers les affaires qui sont en litige chez vous, chers amis, vers cette aberration étrange chez les élus de Dieu. » Cette révolte impie, sacrilège, attisée par quelques individus emportés et présomptueux, révolte qu'ils ont poussé un tel degré de démence que votre nom, qui était vénéré, admiré, aimable à tous les hommes, en est grandement décrié. Donc il y a comme une sorte de crise très forte à Corinthe, et nous nous souvenons que du temps de saint Paul, ils étaient assez remuants, les Corinthiens, hein, puisque certains se disaient...
Lui-même.
Voilà, lui-même, Paul avait subi donc des courants qui, l'un se réclamait d'Apollos, l'autre de Paul, l'autre de Jésus lui-même, etc. Et donc c'était quelque chose de difficile à maîtriser, parce que ces courants étaient de nature assez entier et voire violent. Et ce qui s'était passé donc à Corinthe, c'est que des jeunes avaient repoussé les presbytres, les évêques qui dirigeaient cette église. Il y avait une sorte de poussée, je dirais, de la base, une sorte de synodalité avant l'heure, mais au mauvais sens du terme.
Ils contestaient,
la hiérarchie en place.
Leur responsabilité.
Et les responsables élus.
Leur pouvoir. Bon.
Et exactement. On peut parler vraiment d'une synodalité toxique, c'est-à-dire les jeunes mettaient à bas les vieux et les repoussait. Un peu comme si aujourd'hui, je ne sais pas, il y aurait un groupe de personnes qui prendraient le pouvoir dans l'Église en disant « Ah, nous, maintenant, nous prenons le pouvoir et nous rejetons ceux qui sont en place. » Donc c'était grave parce que ceux qui avaient été institués, c'était pas seulement par le fait de moyens humains, mais c'était sous l'inspiration divine, c'est-à-dire à travers les apôtres choisis par Jésus lui-même et les apôtres ayant choisi eux-mêmes leurs successeurs. Donc il y avait une remise en question de la manière même de faire de Dieu. Et donc il ne s'agissait pas seulement de démocratie à mettre en place, mais de réaliser quelle était la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Clément prend le moyen de longuement s'exprimer sur la question. Il le fait avec beaucoup de diplomatie, parce qu'il ne dit pas « c'est moi l'évêque de Rome qui vient trancher chez vous le débat », il dit « c'est au nom de ma communauté ». Il s'exprime au nom de la communauté de Rome, comme étant la communauté par excellence, celle où Pierre et Paul sont morts, qu'il va citer comme exemple parmi les martyrs, mais qui montre que c'est sous l'autorité de leur sang versé qu'il s'exprime. Et de ce point de vue-là, il va bien montrer son autorité et à la fin, il demandera vraiment qu'on lui obéisse par rapport aux directives qu'il a données dans l'Esprit Saint. Donc, tout en allant doucement dans l'expression, il aboutit finalement à une demande explicite d'obéissance et même, il laisse deux délégués dont il donne les noms sur place en leur demandant de bien vérifier que son action soit réalisée jusqu'au bout avant de revenir à Rome pour faire un compte-rendu à Clément. Donc c'est vraiment comme deux missi dominici, si vous voulez, qui sont envoyés sur place à Corinthe pour que l'autorité pontificale soit exécutée. Cela nous montre que, comme disait le pape Benoît XVI, nous pourrions dire que cette lettre apostolique constitue un premier exercice du primat romain après la mort de Saint-Pierre. Alors c'est très beau de penser ça, c'est-à-dire c'est la manifestation de l'autorité de Pierre, ce qui conduira en 1970 à parler d'infaillibilité pontificale. Donc les premiers arguments, si vous voulez, des pères remontent à cette lettre de Saint Clément.
Donc pour nous, cette première épître de Clément aux Corinthiens a eu des répercussions dans le temps, mais bien longtemps après. Sur l'organisation à l'intérieur de l'Église aussi, sur la discipline.
En quelque sorte, la discipline, ce qu'on peut appeler le droit canonique. Et les choses sont déjà bien, bien en place, puisque Clément n'hésite pas à parler des épiscopoi, des diaconoi, c'est-à-dire les évêques et les diacres. Alors, il ne fait pas encore la distinction entre évêque et prêtre, presbyteroi, ce sera plutôt Ignace d'Antioche qui ajoutera, mais il fait déjà la distinction sous l'image même d'ailleurs de la tradition juive entre les lévites qui sont appelés à servir le temple de Dieu et puis les prêtres et le grand prêtre. Donc ça veut dire qu'il a bien déjà en tête les trois degrés du sacrement de l'ordre, puisqu'il y a les lévites qui servent, il y a les presbytes qui sont au service du culte et qui offre déjà les offrandes. Prosphora est déjà écrit dans le texte grec de cette première épître de Saint Clément aux Corinthiens. Donc prosphore, les prosphores de la liturgie byzantine, on le voit déjà inscrit ici, et qui sont distingués pour la première fois des laïcs, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, mais qui ne sont pas prêtres. Voyez, donc chacun a sa place. Et c'est déjà très beau de voir cette hiérarchie de l'Église qui montre qu'il y a une différence essentielle entre le sacerdoce ordonné et le sacerdoce commun de tout le peuple de Dieu. Comme les Juifs sont tous prêtres, les chrétiens le sont encore plus de ce sacerdoce commun, mais il y a une différence d'essence avec le sacrement de l'ordre institué, transmis depuis les apôtres, et d'autre part une différence de degré, c'est-à-dire tout en haut il y a le grand prêtre, puis il y a les prêtres, puis il y a les diacres, il y a les laïcs. Donc cette hiérarchie est bien mise en place, qui montre qu'il y a non seulement une distinction d'essence, mais une distinction aussi d'ordre, et chacun a sa place. C'est très intéressant de voir Saint Clément dire « chacun a sa place ». Il ne faut pas qu'on prenne la place les uns des autres. Et c'est sous cet argument qu'il va renverser la situation et qu'il va demander à ces jeunes qui ont pris le pouvoir de laisser la place et de laisser revenir les prêtres qui avaient été choisis par les apôtres et les successeurs des apôtres. Donc c'est très émouvant de voir que finalement cette synodalité toxique a été évincée pour remettre dans le fond le vrai sens de la hiérarchie catholique. C'est très intéressant cette première lettre pour nous, c'est très évocateur pour les problématiques de notre temps.
Mais ce qui est incroyable, c'est que tout est posé dès la fin du 1er siècle. Cette lettre de Clément aux Corinthiens est quasi contemporaine des évangiles synoptiques et elle précède même l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse.
Et en quelque sorte, oui, c'est très émouvant et de penser que déjà sur une problématique comme celle qui est retournée ces derniers temps un peu sur le devant de la scène sous l'effet de lobby, la question de l'ordination des femmes est en quelque sorte mise de côté, puisque d'emblée, notre auteur ne parle que de andrès. Alors, il faut savoir qu'en grec, on distingue anthropoi, les hommes au sens générique, qui inclut au-dedans hommes et femmes, et andrès, qui sont de sexe masculin. Or, notre auteur prend comme exemple l'Ancien Testament, bien sûr, où il accentue la citation en faisant parler Dieu ou Moïse au peuple, andrès adelphoi, c'est-à-dire frère, homme masculin. Alors on traduit, évidemment, ce n'est pas très élégant de traduire un texte comme celui-là, on traduit seulement « frère, la tribu dont la baguette bourgeonnera ». C'est Moïse qui parle ainsi au nom de Dieu pour savoir qui dans les 12 tribus serait élu comme sacerdoce dans l'Ancien Testament. Ce sera la tribu de Aaron qui sera élu puisque son rameau bourgeonnera. Eh bien, au numéro 43, donc, notre Clément ajoute au mot « adelphoi » le mot « andrès ». C'est-à-dire, il fait exprès. Ce n'est pas dans le texte de la Septante. C'est assez frappant. Il rajoute le mot Andrés pour bien comprendre que ce sont des hommes de sexe masculin. Et après, et c'est cité par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 861, on nous dira, c'est bien pour cette raison qu'ayant reçu une connaissance parfaite de l'avenir, les apôtres établirent ceux dont il a été question plus haut et posèrent ensuite comme règle qu'après la mort de ces derniers, d'autres hommes éprouvés leur succéderaient dans leur office. Et là encore, le mot « homme », ce n'est pas « anthropoi », c'est « andrés ». Donc, on ne peut pas nier que la tradition la plus ancienne demande, réclame, un sacerdoce de sexe masculin. C'est écrit en toutes lettres dans la lettre de Clément.
Alors je vous propose de faire la traditionnelle pause dans cette émission avant de reprendre nos échanges et on parlera de la mort et du martyr de Clément de Rome, ce qui va nous amener ensuite à parler des persécutions qu'ont subi les chrétiens des trois premiers siècles. En attendant, je vous propose d'écouter le premier mouvement du concerto pour violon La mineur de Jean-Sébastien Bach. C'est une version de l'ensemble Café de Zimmermann.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne où je retrouve le père Édouard d'Ivry, frère dominicain à Toulouse, docteur en théologie, pour cette émission consacrée à Clément de Rome dans le cadre de notre série dédiée au père de l'Église. Donc nous avons évoqué, nous avons terminé la première partie de l'émission sur son œuvre la plus célèbre, la lettre de Clément aux Corinthiens, intitulée aussi « Premier épître de Clément ». Ce que nous n'avons pas abordé, c'est sa mort. Donc il est considéré comme un martyr par l'Église. Comment est-il mort et pourquoi est-il considéré comme un martyr ?
Alors c'est tôt dans l'histoire de l'Église que l'on a reconnu qu'il était martyr. Les circonstances sont discutées évidemment par les historiens puisqu'on n'a pas de texte récent et il faut attendre les Acta Sanctorum tardives dans lesquelles les choses sont reprises. Mais vous en évoquiez tout à l'heure hors antenne quelques éléments, donc je vous laisse les dire.
Oui, alors ce qui a pu être dit, c'est qu'il aurait été exilé en fait, il y aurait eu un exil de Clément peu avant sa mort et qu'il aurait donc été, on lui aurait attaché une ancre au cou avant de le précipiter dans le pont Euxin à
Chersonèse,
où il était en exil. Et donc voilà comment se serait déroulé son martyr, mais je crois qu'on n'a absolument aucune certitude sur les événements en question.
Oui, c'est sûr que n'ayant pas de certitude sur sa mort, il est vénéré à Rome dans l'église Saint-Clément, qui est une église très proche du Colisée. On a au-dedans, d'une manière beaucoup plus tardive, les souvenirs des grands évangélisateurs de la Russie, Saint-Cyril. Et puis, non loin, dans la crypte, il y a la trace encore d'un temple dédié à ce dieu solaire, qui était admiré à l'époque de la fin de l'Empire. Donc on a ce vieil ancrage qui montre bien que très tôt, Clément a été considéré comme un martyr de l'histoire ancienne.
Alors ça nous amène à aborder l'autre thématique que vous souhaitiez inscrire au sommaire de cette émission, c'est-à-dire celle des martyrs chrétiens des premiers siècles et donc des persécutions. Il y aurait eu 10 vagues de persécutions du 1er au 3e siècle au sein de l'Empire romain. Quelles sont les origines de ces persécutions? Ce sont certains empereurs qui vont les décider et les organiser au cours de leur règne.
Oui, tout à fait. Et pour refaire le pont avec Clément, il faut comprendre qu'ils ont dans leurs yeux les souffrances du Christ. Et par 4 fois, Saint Clément évoque le sang versé du Christ. Je vous lis par exemple au chapitre 7 donc, de cet épître aux Corinthiens dont nous venons de parler. « Ayant les yeux fixés sur le sang du Christ et comprenant combien il est précieux à son Père, car répandu pour notre salut, il a ménagé au monde entier la grâce du repentir. » Et cette phrase est tellement forte qu'elle est citée, elle aussi, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1432. Donc, il y a vraiment, dans la conscience chrétienne, le souvenir de ces martyrs, le souvenir de ces hommes qui ont été jusqu'au bout de l'identification au Christ. Nous nous souvenons de ce que disait saint Paul, « Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ. » 1 Corinthiens 11:1. Et dans le fond, imiter le Christ, c'est aller jusqu'au bout de donner sa vie, comme demande la première épître de saint Jean, sur le modèle dont le Christ nous a donné le bel exemple en donnant sa vie pour ses frères, en donnant sa vie pour le salut des autres hommes. Donc c'est ça. À partir du moment où on a compris ce modèle, alors on saisit pourquoi on a été attaché non seulement à garder le souvenir des martyrs, mais même à développer le culte des martyrs, c'est-à-dire à considérer qu'ils étaient le corps du Christ, ils étaient dans l'orbite du Christ, et comme on rendait un culte au Christ, c'était normal que l'on rende un culte non seulement à la tête, mais à son corps, puisque l'Église est vraiment le corps du Christ. Et donc, il y a eu ce développement du culte des martyrs. Alors, pourquoi dit vague? C'est tout simplement parce que les historiens comme Eusèbe de Césarée, que je citais tout à l'heure, aimaient les parallèles avec l'Ancien Testament. Et nous nous souvenons que quand Moïse est sorti d'Égypte, il y a eu 10 plaies. Et donc, d'une certaine manière, il y a une sorte de relecture de l'histoire des 300 ans de persécution romaine dont je parlais précédemment, qui sont relus comme 10 moments, 10 vagues où il y aurait eu ces persécutions pour correspondre, si vous voulez, aux fameuses 10 plaies. En fait, il y en a eu beaucoup plus. mais elles n'ont pas toujours été généralisées. Les toutes premières sont plutôt ponctuelles, selon des desiderata d'un consul, d'un proconsul, d'un préfet qui voulait bien se faire remarquer de l'autorité romaine et qui voulait gagner de l'avancement et qui montrait son zèle romain dans l'administration et qui, comme Ponce Pilate, montrait que dès qu'il y avait quelqu'un qui était un peu contraire aux lois romaines, ben, il savait sévir, donc il pouvait espérer une promotion. Et donc il y a eu des taches, je dirais, de sang des martyrs réparties selon des autorités locales, mais ça n'était pas généralisé. Ça a commencé à être généralisé seulement en 251, la fameuse terrible persécution sous Dèce. Et heureusement, Dèce est mort sous la frontière des Parthes et ça s'est arrêté. Mais ça a été terrible parce que cette deuxième, troisième génération de chrétiens, vers 250-251, même un peu plus, quatrième, cinquième génération, ça dépendait des âges, évidemment, de la mort de chacun, mais n'était pas aussi aguerri. Et il y a eu beaucoup de lapsis, c'est-à-dire de personnes qui ont renié le Christ au cours de la persécution. Les Romains laissaient le choix. Ils prenaient quelqu'un, ils disaient « Si tu sacrifies au dieu romain et à l'empereur, nous te laissons la vie sauve. »
Donc ils leur demandaient de renier voilà. publiquement
ils demandaient de renier leur religion. Alors s'ils ne le faisaient pas, ils allaient au martyr.
Ils étaient mis à mort.
Et ils considéraient que ces hommes étaient non seulement contre les lois romaines, mais stupides, puisqu'ils préféraient mourir plutôt que de se soumettre à la grande majorité des Romains qui étaient la force dominante de l'Empire romain. Donc ils considéraient que c'était une absurdité cet entêtement. Et ils étaient condamnés à cause de cet entêtement. On considérait que l'entêtement était la chose la plus stupide qui puisse arriver à des hommes. Et donc on n'avait aucune pitié vis-à-vis d'eux à partir du moment où ils refusaient cet acte que tout le monde acceptait de sacrifier aux dieux et en particulier aux empereurs qui s'étaient auto-déifiés depuis Auguste. Quelle est la première persécution? C'était sous Néron.
C'est Néron, oui.
64-68.
Comme par hasard.
Oui, hasard, Néron qui avait voulu faire croire que c'était les chrétiens qui étaient à l'origine de l'incendie de Rome. Alors que visiblement, il voulait faire de la place pour ses constructions mégalomanes. Pour construire son Colisée, bah, il fallait un peu faire de place. Donc il avait déclenché quelques feux. Et après, il fallait trouver un coupable. Donc les chrétiens étaient passés comme ceux qui étaient accusés d'avoir déclenché le feu. Donc les martyrs les plus célèbres sont saint Pierre et saint Paul, qui sont morts au cours de cette persécution. Puis vous avez la persécution de Domitien, dont nous venons de parler, 93-96, peu de temps après, où saint Jean l'apôtre serait mort donc, à Éphèse, saint Flavien et Clément, donc notre saint Clément dont nous venons de parler. Vous avez aussi saint Flavie Domitile, qui était proche donc, du pouvoir et qui a été donc, suspectée d'être chrétienne. Elle a témoigné et finalement elle a été tuée. Ensuite, les persécutions sous Trajan, entre 98 à 117, on note saint Siméon, évêque de Jérusalem, saint Ignace d'Antioche, saint Clément le pape, bien distingué de Flavien Clément dont je parlais précédemment, puis la persécution de Marc Aurèle, 161-180, où on aura saint Justin, dont nous parlerons une autre fois, avec saint Potin, sainte Blandine, sainte Cécile, saint Valérien. Ensuite, la persécution de Septime Sévère entre 202-221. Nous avons saint Irénée, dont nous avons déjà parlé, évêque de Lyon. Saint Léonide, le père d'Origène, dont vous avez certainement entendu déjà parler. Sainte Perpétue et Félicité, en Afrique du Nord. Ensuite, la persécution de Maximin le Thrace en 235-238. Passe à la trappe à ce moment-là saint Pontien, pape, et saint Anterre, lui aussi pape. Puis la persécution de Dèce, c'est celle-là qui a été la plus sanglante, hein, où saint Fabien, pape, meurt, saint Agathe en Sicile, saint Polyeucte, Origène, semble être mort peu après cette persécution de Dèce, hein, puisqu'il est mort en 253.
Oui.
Il aurait déjà eu les deux crans de l'écartèlement. La plupart mouraient. Lui, il s'en est sorti, mais
il est mort après.
Il est mort après. Saint Denis de Paris, Saint-Cernin de Toulouse, notre Saint-Cernin de Toulouse. C'est émouvant de le retrouver là, donc au cours de cette persécution de Dèce. Persécution ensuite de Valérien, 257-258, les papes Saint-Étienne et Saint-Sixte II, Saint-Laurent, Saint-Tarcissus, Saint-Cyprien de Carthage, qui va tellement inspirer notre Saint-Augustin et qui va bénéficier de Tertullien, dont nous avions déjà parlé, puisqu'il le prenait vraiment pour son maître. Persécution ensuite d'Aurélien, 274-275, c'est l'époque donc où il y a Paul de Samosate, et nous savons que c'est la première reconnaissance officielle sous Aurélien de l'autorité de Rome, puisque quand il a chassé Zénobie, Aurélien a imposé que les évêques d'Antioche soient en communion avec les évêques de Rome. C'est quand même émouvant. C'est la première manifestation publique de l'existence donc de l'autorité pontificale d'un point de vue laïque. Persécution enfin de Dioclétien entre 303 et 305, en même temps que celle des empereurs associés, Galère, Maximin d'Aïa, et qui s'est arrêté, selon la tradition, en 313 avec l'arrivée de Constantin, sa victoire au pont Milvius et sa liberté de religion. En fait, on sait que ça a encore prolongé bien une bonne dizaine d'années en Égypte, puisque le César qui était contre Constantin et qui a lutté encore une dizaine d'années contre Constantin a continué à persécuter les chrétiens en Égypte. Donc, en fait, ça s'est arrêté bien après 323, au moins.
Donc, c'est au moins trois siècles de persécution.
Alors, au moins trois siècles bien tassés de persécution, avec des persécutions plus ponctuelles qui sont en dehors des dates que je viens de donner. On le sait par les calendriers, on le sait par l'histoire des saints, des Acta Sanctorum, qui a eu en fait tout du long, depuis la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix sous le règne de Tibère et après les décisions qui ont été prises sous Ponce Pilate, nous savons qu'il y a eu une opposition au christianisme et cette opposition s'est prolongée donc jusque à la fin donc de ces persécutions sous Constantin.
Est-ce qu'il y a eu tout de même, durant cette période, des plages de répit, si l'on peut dire, avec certains empereurs qui étaient un peu plus compréhensifs vis-à-vis du christianisme et de son développement dans l'Empire romain?
Alors oui, on pense que dans les interstices que je n'ai pas donnés à l'instant, il y a eu des petits moments de tranquillité. Vous voyez, Tibère est mort en 37. Vous avez après Caligula, Claude, 41-54. Il y a eu quand même deux empereurs là qui n'ont pas particulièrement été repérés dans l'histoire comme étant des persécuteurs. Mais vous avez malheureusement ce que nous admirons beaucoup d'un point de vue, je dirais, de la philosophie, comme Adrien, 117-138, qui n'est pas marqué dans cette liste et qui lui a permis d'échapper en quelque sorte à ces divagues qui ont été recomposées sous Eusèbe de Césarée, qui donnent l'impression que Adrien, le grand empereur pacifique et philosophe, était capable d'être au-dessus de ces malversations vis-à-vis des chrétiens. Mais pas du tout. Adrien était aussi sanguinaire que les autres. Donc ne soyons pas naïfs en pensant, ne soyons pas dupes de cette réécriture de l'histoire qui, en fait, montre bien que tous voulait appliquer les lois de l'Empire, et dès qu'il y avait un drame à l'extérieur, des défaites vis-à-vis de la montée des puissances barbares, que ce soit du côté des Parthes ou que ce soit en Occident du côté des Goths, eh bien on interprétait toujours les défaites de l'Empire romain comme étant conséquentes du fait que le peuple romain n'était pas assez uni autour de ses dieux et que les dieux étaient mécontents des Romains et châtiait par ses punitions donc de défaite internationale les Romains. Et donc le meilleur moyen pour retrouver la Pax Romana, ça voulait dire en fait la victoire romaine sur ses peuples, c'était de unifier autour d'une même religion l'ensemble des Romains. D'où l'opposition très forte vis-à-vis des chrétiens. Les Juifs étaient arrivés au cours des siècles à obtenir un statut spécial. Ils ne voulaient pas qu'une bonne part de la population qui croissait, puisqu'il y avait de plus en plus de chrétiens, obtienne le même statut que les Juifs. Et les Juifs n'étaient pas trop contents, effectivement, du fait que les chrétiens, d'une certaine manière, obtiennent les mêmes avantages qu'eux, parce que cela aurait fini par dévaluer leur statut privilégié.
On a commencé avec Clément de Rome, donc un des martyrs chrétiens de ces premiers siècles. Pour conclure l'émission, est-ce qu'on peut dire que sa première épître, sa lettre aux Corinthiens, reste aujourd'hui une référence toujours aussi importante pour les étudiants en théologie et pour tous ceux qui se destinent à la prêtrise?
Oui, et même, je dirais, dans cette prière qui est très émouvante, par laquelle finit Clément sa lettre, une prière qui est pleine, finalement, de confiance en Dieu, et qui montre l'espérance chrétienne comme une sorte de litanie et de supplication, et qui s'achève par quelque chose d'assez étonnant, la prière pour ceux qui nous gouvernent. Et je dirais, tout à fait en connexion avec Romains chapitre 13, ou le dialogue dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean entre Pilate et Jésus, qui montre que tout pouvoir vient d'en haut, et que ça fait partie de la prière des chrétiens d'adresser à Dieu une supplication pour les gouvernants, pour qu'ils puissent permettre que la loi naturelle et évangélique soit respectée. Car dans le fond, les gouvernants sont hautement responsables devant Dieu quand ils dérogent par rapport à la loi naturelle et évangélique. Et malheureusement, s'ils font quelque chose de contraire, eh bien, un châtiment terrible les attend. Écoutons ce que dit Saint Clément. « C'est toi, maître, qui leur a donné le pouvoir de la royauté par ta magnifique et indicible puissance, afin que, reconnaissant la gloire et l'honneur que tu leur as donné, nous leur soyons soumis et ne nous opposions pas à ta volonté. Donne-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, afin qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as donnée. » C'est toi, en effet, Maître Céleste, Roi des siècles, qui donne au Fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses terrestres. Ô toi, Seigneur, dirige leurs décisions selon ce qui est bon et agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et dans la douceur, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Ô toi qui seul peux accomplir ces bienfaits et de plus grand encore pour nous, nous te rendons grâce par le grand prêtre et protecteur de nos âmes, Jésus-Christ, par qui soit à toi la gloire et la grandeur, maintenant et de génération en génération, et dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi se finit cette prière de Saint Clément, pape.
Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, frère Édouard. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à vous sur Clément de Rome, un des premiers papes et donc l'auteur de la lettre de Clément aux Corinthiens, connu aussi sous le titre de premier épître de Clément. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de cette série dédiée au Père de l'Église. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.